Can we please be seated?
Patrick Folsom prend la parole. Je vous prie de bien vouloir prendre place pour reprendre nos activités.
So a couple of practical.
Patrick Falsum prend la parole. Certes, nous allons voir quelques points pratiques. Nous avons donc les badges qui sont prêts. Vous pouvez aller les récupérer au fond de la salle quand vous voudrez, maintenant ou après, quand vous allez prendre une tasse de café. Nous devons décider aujourd'hui quelle sera notre réunion l'après-midi, s'il y aura des groupes, si on va se réunir en groupe et si on pourra avoir de la participation à distance. Je voudrais savoir si vous sentez qu'on en aurait besoin de travailler en petits groupes. Certaines d'entre nous, moi-même y compris, avons certains engagements, donc je ne pourrais pas participer à des séances qui seraient tenues le soir. Il faudrait penser à l'idée d'avoir un dîner informel du groupe pour qu'on ait l'occasion de discuter de façon informelle entre nous et voir donc si vous avez des idées par rapport à un dîner que l'on pourrait avoir ensemble. Je vous prie de me commenter vos idées pour voir ce que l'on peut faire. Revenons donc à la question des réunions du soir. On pourra décider de cela après la pause déjeuner. Nous allons donc passer au prochain point de l'ordre du jour, la proposition donc de la communauté des protocoles, paramètres de protocole. Yariarko, je te passe la parole pour que tu nous dises où vous en êtes. Nous avons donc Yariarko prend la parole. Je vais parler pendant une heure et demie. Pas vraiment. Je vais être très bref. Je vais faire une synthèse pour vous raconter un petit peu où nous en sommes, pour que l'on puisse aborder les points principaux et voir s'il y a des questions que vous avez pour l'IETF. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant du processus que nous avons mis en place. Nous avons donc créé un groupe de travail. Nous avons utilisé un processus ordinaire de création. Nous avons donc eu des discussions au sein de ce groupe de travail. Et finalement, nous avons approuvé le document suivant un processus que nous mettons en place pour d'autres questions aussi que nous traitons au sein de l'IETF. Il y a eu des débats, il y a eu des consensus approximatifs par rapport à certains points de la proposition. Il y a eu un débat par rapport à certains points, par exemple, les langues de contact de la proposition, la langue qu'on allait utiliser dans la proposition, et voir quel est le rôle de ayana.org pour voir si on avait suffisamment de justification de la part du président du groupe de travail. Toutes ces questions ont été abordées à plusieurs reprises. Nous avons eu des commentaires à plusieurs reprises par rapport à ces questions. Et finalement, il y a eu un accord. On a eu un consensus par rapport à ces points. On a pu avancer. Voilà un petit peu l'histoire un peu générale de comment les choses sont passées. Nous avons travaillé à l'évaluation. Milton, moi-même, Jean-Jacques. Et il y a 4 évaluations, versions, pardon, de l'évaluation indépendante sur la liste de diffusion. Et je dois mettre à jour ma version. Et nous avons eu aussi des discussions par rapport au fait de savoir s'il devait y avoir une évaluation ou il devait y en avoir plusieurs. Je pense que la réponse que l'on a eue à partir de la liste de diffusion, c'est que l'on devrait en avoir plusieurs, même si je souhaiterais que l'on puisse se mettre d'accord au cours de des jours à venir par rapport à une proposition, à une évaluation consolidée. Mais la question est de savoir si l'ICG demande à l'IETF de faire quelque chose. Et je voudrais préciser, je voulais qu'on arrive à préciser cela. C'est pour cela que les évaluations sont importantes. Mais il faut les voir si l'ICG est à l'aise avec ce qui a été proposé ou s'il y a des questions que nous souhaiterions poser. Il y a plusieurs points abordés dans ces évaluations. D'un côté, c'est l'inclusivité ou l'ouverture. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cela, mais il nous faut être prudent quand on établit des attentes en ce qui concerne l'ouverture ou l'inclusivité. Il faut donc essayer de faire en sorte que la proposition soit équitable, en ce sens qu'elle inclut les points de vue de toute la communauté. Nous devons donc avoir cette discussion sur la liste. En ce qui concerne les contrats et la négociation, voilà un autre point qui a été discuté. Comment nous allons aborder cette évaluation, l'évaluation de ces aspects. Est-ce que nous avons des questions au niveau de l'ICG? La proposition que l'IETF nous a envoyée a certains points qui devraient être négociés, notamment le fait de savoir si les données des systèmes IANA devraient être dans un domaine public et de savoir aussi s'il doit y avoir une transition en cas de changement d'opérateur. Et à ce moment-là, voir quel est le type de contrat que l'on devra mettre en place pour ce type de service. Il peut y avoir d'autres points, par exemple l'organe responsable de ce type de négociation à l'IETF, des clauses du contrat qui seraient contraignantes. Nous devrions obtenir des informations par rapport à cela. Ces points qui doivent être résolus. Mais voilà ce que le groupe de travail considère comme étant des points qui devraient être pris en compte dans de futurs contrats. Et le groupe de travail considère que, en dehors de ces deux points, les négociations spécifiques et le langage utilisé au niveau de l'IETF, il y a la question des négociations et du conseil juridique. Bien sûr, nous pouvons nous mettre d'accord avec entre nous. Quand on négocie, bien sûr, avec d'autres parties, il y a donc des informations supplémentaires qui ont été apportées par Milton et par d'autres. Nous avons donc pris en compte les contributions. Et nous sommes en train de mettre à jour nos accords en ce qui concerne le niveau de service pour l'IANA. Certains aspects ne pourront peut-être peut-être pas être facile à résoudre. Il se peut que les États-Unis aient leur mot à dire par rapport à certains points. Dans d'autres cas, ils ne pourront pas donner leur avis jusqu'à ce que l'on décide du système que l'on mettra en place pour la transition. Je ne sais pas si vous connaissez en détail l'affaire l'IOC, pardon. C'est un comité de l'IETF, IAOC. Donc, c'est un comité direction de l'IETF qui s'occupe de, des approbations de l'IAB. Il y a le président de l'IEF, de l'IETF, pardon, ainsi que certains membres de l'IAB qui participent à ce groupe. Aux côtés d'autres personnes qui viennent d'autres groupes. Il s'agit donc d'un organe de représentation avec plusieurs membres et qui travaille donc avec l'IETF pour obtenir des conseils, des avis juridiques auprès d'autres entités aussi qui pourraient intervenir dans des cas spécifiques. En ce qui concerne l'ouverture et l'inclusivité, j'en ai déjà parlé. Mais je voudrais dire que l'important, ce n'est pas de répéter les discussions que l'on a déjà eues au sein de l'IETF, mais plutôt de savoir ce que pense l'ICG par rapport à ces deux questions de l'ouverture et l'inclusivité. Russ, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, Jariako reprend la parole. Je vais donc finir ici, je crois. Patrick Folstrom. Nous allons donner la parole à Jean-Jacques Subrena. Jean-Jacques Subrena prend la parole. Merci, Patrick. Est-ce que vous m'entendez? Jean-Jacques Subrena, j'ai une remarque, une question. La remarque, je tiens à remercier Yeri d'avoir commencé cette version préliminaire qui nous a permis d'avancer sur la question de fond. Ma question est la suivante. Voyant les résultats et les détails de ce résultat, je me demande quelle impression que cela fait pour la communauté que nous représentons. Parce que je sais que cela peut être utile pour pouvoir attirer l'attention sur certains aspects. Afin que des consultations puissent être mises en place. Mais maintenant que je regarde le tout, je vois que c'est un document plutôt qui a la défensive, un ton assez défensif. Je ne sais pas s'il faudrait rentrer autant dans les détails. Et je ne sais pas s'il faudrait autant se justifier. Ma question est la suivante. Suis-je le seul à avoir cette impression ou il y a d'autres parmi le groupe qui partageraient cette inquiétude avec moi? Merci. Patrick Folstrom, vous voulez répondre à cela immédiatement, Yari? Yari Arcor prend la parole. Je pourrais y répondre. Je parle pour moi-même, bien sûr. J'ai un sentiment qui rejoint un petit peu le vôtre. Nous regardons nos processus. Nous avons mis en place vos critères. Et d'une certaine manière, c'est vrai que la réponse est utile, même si je comprends la nécessité de montrer que nous avons bien fait notre travail, nos devoirs. Nous avons analysé les différentes questions, nous avons cherché à avoir une approbation, etc. Patrick Falsham, j'ai Michael Cavus et Daniel. Michael Nibon prend la parole. Merci, Yari, pour cette explication. Je pense qu'il n'y a pas de mal à rentrer dans le détail. Je pense que la remarque concerne plutôt la question du point numéro 3 par rapport aux arrangements. Juste une précision que je voulais avoir, parce que vous avez déjà des relations avec les Cannes, des relations formelles avec les Cannes. Mais puisque cela a été discuté dans d'autres contextes, quelle est la personnalité juridique dans ces relations contractuelles? L'autre question que je voulais soulever, en l'absence du contrat avec la NTIA, d'autres arrangements devraient être nécessaires. Je pense qu'ici, le mot « devrait », pourquoi n'êtes-vous pas convaincu qu'il faudrait d'autres arrangements? Et le troisième élément, dernier élément, quand vous dites la communauté UETF préfère, etc., l'ICANN reconnaît qu'il faut respecter l'obligation établie, etc., etc., de mener à bien une transition, etc. Est-ce que c'est la conviction de l'IETF que cette déclaration serait légalement, juridiquement suffisante, ou suffisante du point de vue juridique? Voilà. Yari Yarko prend la parole. Je vais aborder les deux premiers points et Russ répondra à la troisième remarque. Du point de vue juridique, l'entité légale chargée des contrats, c'est l'ISOC. Bien que l'on reconnaisse que l'IAO intervient aussi dans d'autres questions liées à l'IANA. En ce qui concerne le mot « serait » ou « devrait », hein, le conditionnel, cette question a été discutée au sein du groupe. On aurait pu choisir un autre langage, mais c'est ce qu'ils ont pensé que c'était approprié. Russ Housley prend la parole. Je pense que le troisième point est lié aussi au premier point. Pour la transition, nous voulions avoir l'engagement de l'ICANN qu'elle allait aider ou intervenir à un certain point en ce qui concerne les décisions concernant certains protocoles. Le protocole d'accord a été signé il y a 15 ans et nous avons des niveaux de service qui sont signés tous les ans. Nous ne voulions pas revenir sur le document précédent, au document ancien, et nous l'avons donc incorporé au SLA, les accords de niveau de service. Cela est signé tous les ans par l'ICANN et les directeurs administratifs de l'IETF. Cela, dans ce cadre, l'IETF n'est pas une personnalité juridique. En même temps, cela paraîtrait être la meilleure solution possible pour aborder la question. Patrick Folson prend la parole. Cavus Araste prend la parole. Merci. Ma question d'après ce qui vient d'être dit, est la suivante. La NTIA a-t-elle une fonction de supervision par rapport aux activités que mène l'IETF? Si la réponse est oui, j'aimerais savoir quelles sont ses fonctions et que se passera-t-il après la transition. Il y a donc trois questions. Je sais qu'il est difficile de se souvenir de toutes les questions dont je vais les poser au fur et à mesure. C'est ma première question, donc j'en ai deux autres pour après. Yari Yarko prend la parole. Merci qu'à vous de poser les questions au fur et à mesure. En ce qui concerne les fonctions de supervision de la NTIA, jusqu'à présent, ces fonctions ont été plutôt liées au fait de permettre aux communautés de se développer et de développer les mécanismes nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches. Voilà comment les choses se sont passées du point de vue de la NTIA. C'était une approche très intelligente. Aujourd'hui, il n'y a pas de tâches qui remplissent vis-à-vis de nous. Il pourrait, mais tout ce qui est fait aujourd'hui est géré par l'IETF et par l'ICANN dans le cadre de leur fonctionnement habituel. Tout cela est couvert de notre côté. Il n'y a pas d'intervention de l'NTIA. Kavous prend la parole. Kavous Araste prend la parole. La réponse que vous me donnez, c'est qu'il n'y a pas une supervision de la part de la NTIA. Et tout ce qui est lié à la supervision ou à la responsabilité est du ressort de l'IETF. Donc, après la transition, les choses ne vont pas changer de ce point de vue-là. Or, pour nous assurer que tout se passe de façon correcte, y a-t-il des procédures envisagées pour pouvoir mettre en place des révisions ou des recours, des mécanismes de recours ou de remédiation? Si la réponse est affirmative, comment ces procédures sont mises en place actuellement? Est-ce que les décisions sont à caractère obligatoire? S'il y a par exemple une demande de remédiation ou un recours qui est interposé, est-ce que la décision prise est obligatoire ou contraignante ou non? Yari Arko prend la parole. Je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris votre question. Pardon, Russ Hasley prend la parole. Je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris votre question. Il y a toujours une interaction opérationnelle entre l'ICANN, l'IANA et l'IETF. C'est Yari Arko qui prend la parole. Nous leur adressons des demandes, ils nous répondent et nous faisons un suivi de la performance de l'IANA. Ce sont des rapports très détaillés. Donc nous sommes très satisfaits de la performance des dernières années. Mais la réponse, c'est que oui, il y a des révisions donc de la situation, des résultats avec l'IOC. Et on met à jour aussi les SLA, c'est les accords de niveau de service. Kavous Araste?
Oui. Vous avez bien répondu à ma question. Maintenant, je voudrais savoir si vous pensez que l'on pourrait habiliter la communauté pour qu'il y ait une procédure plus directe de pouvoir modifier ou annuler les décisions qui sont prises. Comptez-vous habiliter la communauté dans l'avenir, après la transition? Parce que nous avons toujours la NTIA qui agit en cas de nécessité, mais si la NTIA n'est plus là, la communauté devrait peut-être être habilitée pour pouvoir agir si nécessaire. Merci. Yari Arko prend la parole. C'est une bonne question. La communauté de l'IETF est chargée de décider quelles sont les politiques. Donc c'est notre communauté qui va prendre les décisions concernant les assignations, les attributions qui sont faites. Et l'IANA doit exécuter ces décisions qui sont prises par notre communauté. Alors vous voyez, c'est cela qu'on fait, c'est comme ça qu'on agit en ce moment. La communauté est en mesure d'assurer cela. En outre, il y a aussi la question des accords et des dispositions générales qui devraient peut-être évoluer dans l'avenir. Il me semble que l'IETF est en mesure de faire des propositions et de prendre des décisions concernant la manière dont cela devrait évoluer dans l'avenir, voire même d'inclure une modification d'opérateur si nécessaire. C'est juste que Liana nous a fourni un service excellent jusqu'à présent, donc cette possibilité n'a pas été considérée. Mais ça va dépendre de la communauté de l'IETF qui va décider de cela. Donc je pense qu'ils ont le pouvoir de décider. Patrick Fasseron prend la parole. Merci. On a Daniel, puis Milton, et j'ajoute mon nom à la queue. Daniel prend la parole. Avant de faire ma remarque, je voudrais essayer de vous demander de mieux communiquer avec Cavus. Je sens que ce que Cavus voulait savoir était quels sont les mécanismes pour pouvoir corriger une situation où l'opérateur des fonds Soyana ne fait pas ce que l'IETF veut. C'est bien ça ce que vous demandiez, Cavus? Oui. Alors, est-ce que vous pourrez répondre à cette question, Yari? Yari Arco prend la parole. Nous avons une interaction opérationnelle quotidienne et bien sûr, nous faisons un suivi des problèmes qui pourraient avoir lieu. Et puis, on s'en occupe s'il y a des problèmes. Si nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes, nous allons consulter avec le conseil d'administration de l'ICANN ou avec l'IAB et l'IESG en cas de nécessité. Et nous nous occupons de ces problèmes. Le protocole d'accord, en fait, dit qu'en cas de conflit, l'IETF et l'ICANN, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'IETF qui va décider. C'est l'IAB, pardon, qui va décider. Et même au-delà de cela, si ce n'est pas suffisant, les deux parties ont la possibilité de refuser ce que le contrat dit et d'abandonner ce contrat avec un avis de 6 mois d'avance. Donc voilà les mécanismes. C'est comme cela qu'on agit en cas d'urgence. On a des outils qui sont vraiment très directs. Je ne vois pas que ce soit nécessaire de les modifier dans l'avenir. Daniel prend la parole. Maintenant, je vais passer à mon propre commentaire qui répond un peu à ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure. J'ai déjà participé à l'IETF dans le passé. J'ai participé avec l'Internet Society, qui est un organisme qui intègre l'IETF. Et par conséquent, je sais à peu près comment ils opèrent. La proposition que nous avons reçue de l'IETF et le processus qui a été suivi pour arriver à cette proposition me semble correspondre à la structure de l'IETF, avec leur culture, avec leurs procédures ascendantes, pour ce qui est de la gouvernance, bien sûr. Et donc, il me semble que les processus et les contenus sont tout à fait acceptables. Et donc, je propose qu'ici, au sein de l'ICG, nous remercions la proposition de l'IETF et que nous arrivions à un consensus sur le fait qu'il respecte les critères qui avaient été établis et que l'on accorde d'intégrer leurs propositions à notre propre processus et que l'on ne pose plus de questions. Merci. Maintenant, Milton, dit Patrick. Milton Mueller prend la parole. Nous allons poser des questions, sans doute. Je m'excuse, Daniel, mais ce n'est pas comme cela qu'on va agir. Je ne dirais pas que cette proposition n'est pas correcte. Mais nous ne pouvons pas faire cela. On ne peut pas approuver tout simplement une proposition sans considérer comment les procédures devraient fonctionner, s'ils respectent les autres propositions, si c'est cohérent. Je respecte profondément l'IETF et leur culture et leur processus. Mais ici, le désaccord philosophique fondamental est qu'il s'agit d'un processus de l'ICG. C'est notre appel à proposition qui doit être suivi. C'est à nous de présenter une proposition à la NTIA. Si on voulait avoir des négociations bilatérales entre la NTIA et l'IETF, ce serait une autre question. Mais il ne faut pas que l'on soit si précipité ici dans notre approche. ou préventif même. Je pense qu'il y a des questions simples sur si la proposition est complète, ce qu'elle veut dire, si elle correspond au processus. Je pense qu'il faut qu'on considère ces aspects. Il ne faut pas que l'on conclue la discussion sans discuter de cela. Je pense qu'il y a des problèmes ici qui peuvent être résolus. Ce n'est pas des questions fondamentales. Maintenant, je vais revenir à ce que j'allais dire, parce qu'ici je viens de réagir à ce que Daniel a dit, mais j'avais une autre remarque à faire. En premier lieu, Yari, pour revenir sur ce que vous avez répondu à la question de Cavus, il faut que ce soit clair que la NTIA n'a jamais eu d'autorité eu égard à l'UETF. Et donc, ce n'est pas qu'ils s'abstiennent d'utiliser leur autorité, mais plutôt qu'ils n'ont jamais eu d'autorité par rapport à l'UETF. Ils avaient une autorité par rapport à l'ICANN, et puisque l'UETF est interdépendante avec l'ICANN, l'UETF s'est rapprochée de la NTIA pour lui dire qu'il fallait qu'il trouve une manière d'interagir avec la structure qui avait été établie par la NTIA. Et maintenant, je vais passer à l'appel à commentaires, donc le RFC 2826. Ross a dit que l'IETF ne voulait pas rouvrir cet RFC 2826. Et la vraie question par rapport à cette procédure est qu'il semblait avoir un groupe qui voulait reprendre cet appel à commentaires et avait un groupe qui ne comprenait pas pourquoi il devrait revenir dessus. Donc, ce n'était pas clair pourquoi un groupe ne voulait pas revenir sur cet appel à commentaires, pourquoi il ne voulait pas fonder de façon plus profonde ce qui avait été dit. Je suis d'accord avec ce que M. Nibel a dit, par exemple. Ce mot « peut » ou « pourrait » me gêne un peu. On n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire. Ils pourraient faire quelque chose et ils ne pourraient pas le faire. On veut savoir si vous allez agir ou pas. Pourquoi parlerait-on de nouvelles dispositions pourraient être nécessaires? On voudrait savoir si les nouvelles dispositions seraient nécessaires ou pas. Ce sont des petites modifications à la proposition, mais peut-être que ce serait utile pour mieux comprendre. Et je ne vois pas pourquoi vous ne répondez pas clairement à cela. Yari prend la parole. Vous me permettez de vous répondre? Je ne veux pas oublier ce que je pense. Que ce soit clair, l'autorité de l'IETF n'a jamais été reconnue dans les documents de la NTIA. Je pense que c'est plus facile de comprendre sachant ce fait-là. Et d'autre part, pour ce qui est du mot « pourrait », je comprends que le groupe de travail a eu une discussion à cause de ce mot-là, mais c'est ce que la communauté a décidé. C'est là que la communauté y était. On pourrait discuter de si c'était correct ou pas, mais il me semble qu'il faut que l'on reconnaisse le rôle de la communauté à ce point-là. Je ne sais pas si vous ou si l'ICG peut remettre en question ce que la communauté a décidé. Et c'est pareil pour les autres communautés aussi. Il y a des fois où on pourrait ne pas être d'accord avec ce qui est décidé. Mais en tout cas, les processus des communautés fonctionnent comme cela. Patrick prend la parole. Milton, allez-y. Milton Mueller prend la parole. Oui, ce n'est pas qu'on essaie de défaire ou de remettre en question ce qui a été décidé par la communauté opérationnelle. Ce qu'on essaie de faire est de leur dire que leur proposition doit être complète et cohérente. Les gens ont du mal à comprendre leur proposition puisqu'elle dit que quelque chose pourrait se passer, mais qui n'explique pas quelle est la juridiction des protocoles d'accord, où il n'est pas clair comment on procéderait en cas de conflit. Et ces reconnaissances qui sont incluses dans la proposition ne sont pas claires non plus. On ne sait pas quand est-ce que tout cela va se passer. C'est ça qui nous préoccupe. Yari Arco prend la parole. Oui, permettez-moi de vous répondre. Je parle à mon titre personnel en tant que membre de l'IAOC et j'ai reçu ces retours du groupe de travail et des autres personnes sur ce qu'on devrait faire. Et je pense que mon avis est que c'est très bon d'avoir ces dispositions dans le document. Mais même si on n'a pas ces spécifications, on peut continuer d'avancer. Ce n'est pas grave. Donc voilà pourquoi je soutiens cette proposition telle qu'elle a été présentée, pour l'instant en tout cas. Mais je voudrais que l'on négocie cela. Ça ne devrait pas être éliminé. Vous pouvez sans doute imaginer des cas où on n'aurait pas l'occasion de se mettre d'accord sur tous les points sur lesquels on voudrait être d'accord. En ce moment, l'IETF travaille sur des aspects qui l'intéressent, bien sûr. On a d'autres aspects qui nous intéresseraient, mais on a déjà ça. C'est ce qu'on vous a présenté et je ne voudrais pas qu'on s'éloigne de notre travail. Patrick Falstrom, Milton. Milton Mueller prend la parole. Bon, vous venez de soulever une possibilité intéressante, mais si on est d'accord sur le fait que la NTIA n'a pas d'autorité ou de supervision par rapport à l'IETF, est-ce que l'IETF pourrait avancer avec sa proposition de présenter sur une voie indépendante? Pourquoi la NTIA devrait-elle permettre ou autoriser la mise en œuvre de cette nouvelle disposition? Russ a répondu ma question, en fait n'a pas répondu à ma question de pourquoi ne pas revenir sur le RFC 2860. Russ Housley prend la parole. Oui, pour ce qui est du 2860, on n'imaginait pas de discussion où on trouverait un compromis meilleur que ce qu'on a atteint pour le 2860. Donc, je vous dirais que c'est pour cela que la charte a été considérée comme étant au-delà. Il y a plusieurs ans, plusieurs années, l'IAB a contacté l'NTIA et leur a demandé de ne pas être inclus dans les versions futures du contrat. Et ici, la seule partie qui est affectée est l'ICANN. Patrick prend la parole. J'ai moi-même Ross Mundy, Cavus, Alissa et Manal dans la queue. Je vais commencer. J'ai deux questions à poser. Étant donné ma participation historique à l'IETF, je sens que je sais très bien comment fonctionnent les procédures de l'IETF. Et je pense comprendre la proposition qui a été présentée par la communauté des paramètres de protocole. De toute façon, j'ai une question concernant les mesures spécifiques des fonctions YANA par rapport aux demandes des paramètres de protocole. En ce moment, dans le contrat entre l'ICANN et le département de commerce du gouvernement des États-Unis, il y a certains détails, certaines structures très détaillées et certaines étapes qui doivent être suivies dépendantes des paramètres. Il faut voir s'il s'agit d'une attribution d'un expert, une désignation, s'il y a des processus de recours, etc. Donc, si je ne me trompe, il y a d'autres aspects qui ne sont pas inclus dans ce protocole d'accord et dans cette proposition qui nous a été présentée par la communauté opérationnelle des paramètres de protocole. Et donc, l'ICANN ou l'opérateur des fonctions YANA doit faire un suivi spécifique de ces aspects. Et peut-être que cela sera abandonné. Est-ce que cet aspect-là a été discuté? Est-ce que vous sentez que ces procédures devraient toujours exister ou alors est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours être à l'aise avec ces processus? Et si, est-ce que vous sentez qu'ils sont suffisamment stables? Merci. Yari prend la parole. Il me semble que les documents que nous avons sont suffisamment stables pour pouvoir gérer le système comme on l'a géré jusqu'à présent d'ailleurs. Je voudrais noter également qu'il y a certains aspects et certaines dispositions dans le contrat entre la NTIA et l'ICANN qui portent sur ce que la NTIA pourrait faire potentiellement par rapport aux demandes de la communauté des paramètres de protocole. Et je voulais que ce soit clair que l'IETF n'a pas participé à cet accord et que l'IETF considère qu'il n'est pas approprié pour la NTIA d'agir par rapport à ces décisions d'attribution des paramètres de protocole ou au refus. Il y a des termes de rédaction qui devraient être éliminés. Patrick prend la parole. Élise, allez-y. Élise Guérich prend la parole. Je voulais spécifier que les processus qui correspondent à la réponse du contrat sont des processus qui ont été développés avec l'IETF et qui se correspondent à leur orientation envers nous. Ces termes sont inclus dans le contrat parce qu'il y avait un document du contrat qui établissait les procédures et les processus. Ces processus et procédures n'ont pas été inventés par la NTIA ou par l'ICANN indépendamment, mais plutôt l'IETF a accordé ces procédures et processus, et ces procédures et processus font partie des accords annuels que nous avons en place. Ce n'est pas un processus qui a été dirigé par la NTIA, mais ce sont des processus établis en conformité et qui sont considérés dans les RFC de Yana, dans leur politique. Patrick prend la parole, merci. Maintenant, en deuxième lieu, j'entends Daniel suggérer qu'on devrait remercier la communauté opérationnelle d'avoir présenté cette proposition. Hamilton disait également qu'on devrait peut-être poser certaines questions. Je ne parle pas comme coprésident de l'ICG, mais tout simplement comme membre de l'ICG. Lorsque je dis que si nous allons remercier aux communautés de leur proposition, il faudrait que l'on tienne compte du fait que qu'il pourrait être nécessaire de faire une révision des propositions pour voir si elles sont complètes pour les trois propositions. Et donc, à ce point-là, on pourrait peut-être détecter certains points qui ne sont pas suffisamment complets et pour lesquels il faudrait communiquer avec les communautés. Donc, même si on a reçu une proposition de leur part maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir renvoyer ces propositions aux communautés. Oui, Gary, allez-y. Yari Arco prend la parole. Je voulais répondre rapidement pour vous dire qu'on n'a pas refusé de discuter des prochaines étapes, des questions. On serait content de répondre à vos questions. Il est clair que les prochaines étapes pour la manière dont on procédera et pour l'intégration des différentes propositions devra être faite par l'ICG. Et bien sûr, il pourrait y avoir des lacunes. Donc, on pourrait très bien réviser notre propre proposition si nécessaire. Russ?
Russ Mundy prend la parole. Merci, Patrick. Russ Mundy prend la parole. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a des publications qui ont trait à ces aspects, des publications du SSAC. Il y a, en fait, SSAC 67, 68 et 69. Ces documents, notamment le 67 et le 68, sont très en rapport avec cette question car ils donnent un petit peu un aperçu de quelle est la relation contractuelle entre la NTIA et l'IETF. Il n'y en a pas une. En réalité, il y a des étapes, il y a des informations, il y a des échanges de détails entre l'ICANN dans le cadre du contrat. Et comme Élise vient de le dire, le contrat a été développé en accord ou conformément à ce que l'IETF et l'ICANN voulaient. Et il n'y a rien qui soit contraignant par rapport à la NTIA. J'ai beaucoup travaillé ou étudié le document, le 68, pour voir comment ces informations rentraient dans le contrat. parce que comme l'autre Russ l'a bien dit, cela devra être traité dans l'avenir. Très honnêtement, je dois dire que je n'ai pas été capable d'identifier des informations publiques qui disent pourquoi cela est inclus. Mais cela figure dans le contrat, mais ce n'est pas vraiment contraignant pour l'IETF et pour la façon dont l'IETF travaille. Je pense que Milton a posé la question de savoir pourquoi nous nous posons cette question. Mais parce que cela était inclus. Cela disait que l'IETF devait être inclus dans ces révisions. C'est pour cela que l'on s'est posé cette question. Si l'on veut davantage de détails, je vous renvoie à ces documents et je serai ravie de vous les faire parvenir. Patrick Fulcham donne la parole à Cavus, Cavus Araste. Tout d'abord, il n'y a pas de problème à remercier le groupe. Mais remercier, c'est tout. On les remercie du travail qu'ils ont fait. Maintenant, on examine ce travail. Encore une fois, il ne faut pas que l'on se presse. Patrick, en tant que co-président, il paraîtrait, à partir des discussions, qu'il y aurait des lacunes juridiques ou légales entre le travail que nous faisons, d'un côté au niveau de la charte, car nous devons de considérer les activités des trois communautés. Nous arrivons à la situation où il y a une communauté qui n'est pas liée à la transition. Et donc, pourquoi on en parle? Pourquoi on leur demande de faire quelque chose alors qu'ils n'ont rien à voir avec la transition? Nous devons donc aborder cette situation. Deuxièmement, il y a des aspects du contrat qui n'ont pas été mis en œuvre et qui devraient donc faire sortir du contrat. Il n'y a rien par rapport à la communauté, ou il n'y a aucun pouvoir donné à la communauté pour pouvoir interposer des recours. La communauté n'est pas l'entité physique. Nous ne savons pas comment cela fonctionne. C'est pourquoi il y a des procédures juridiques et il y a d'autres problèmes, y compris la responsabilité, qui ne sont pas abordés. Et c'est pourquoi il faut examiner cela et ne pas dire que c'est fait. En ce qui concerne Yariarko prend la parole. Je veux dire, on peut voir cette situation de deux façons différentes. D'un côté, on pourrait dire que nous sommes tous dans le même bateau. Il y a certains objectifs à atteindre. Donc, il y a une raison pour laquelle nous voulons continuer à travailler. Nous voulons faire partie de la transition. Voilà donc le fondement de notre travail. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, je ne suis pas très sûre de pouvoir vous donner une réponse. Mais si l'on parle des organisations de la communauté, cela ne veut pas dire que l'on parle uniquement des membres de la communauté qui peuvent avoir différents avis. Il y a un certain degré de structure qui a été établi au sein de l'ITF. On a le comité de direction qui décide en dernier ressort de la position de l'IETF par rapport à des documents. Nous avons aussi des organes spécifiques chargés de certains sujets en particulier, comme l'IAB. Nous avons aussi l'IAOC. Et nous avons un modèle juridique où il y a l'ISOC, où l'ISOC est l'organe juridique. Il faudrait donc dire que l'avis de la communauté doit être interprété. Mais dans ce cas, on parle de la façon dont ces organisations fonctionnent au sein de la communauté. Il y a quelqu'un qui doit prendre les décisions. Alyssa Cooper prend la parole.
Merci.
Merci. Je voulais répondre à certains commentaires qui ont été faits. Tout d'abord, l'idée de approuver tout simplement la proposition. On ne suggère pas cela parce qu'on sait bien qu'il y a différentes personnes qui ont beaucoup consacré beaucoup de temps à analyser donc ces propositions. Nous croyons que les communautés ont présenté ce que nous leur avons demandé dans notre appel à proposition. Et le fait de ne pas leur poser de questions ne veut pas dire que nous acceptons tout ce qu'ils ont fait. Cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faille pas leur poser des questions si on en a. Tout simplement, laisse ouverte la possibilité que cela puisse ne pas s'appliquer dans ce cas, mais que cela puisse s'appliquer à d'autres propositions de la communauté et qu'il faille revenir vers elles pour leur poser des questions, refaire l'évaluation pour mieux comprendre le travail qui a été fait. Deuxièmement, en ce qui concerne le pourquoi d'examiner une proposition sur les paramètres de protocole, si la NTIA voulait que le paramètre de protocole ne figure pas dans le contrat, on pourrait s'arrêter là. Mais vu l'état de situation, il y a des clauses du contrat qui font référence à ces paramètres de protocole. Même si le contrat disparaît, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette révision, parce que cela fait partie du contrat de la NTIA et non pas parce que cela est lié à, au RFC 2860, pardon, au RSAC 2860. Je me demandais s'il serait peut-être utile, si Elise ou quelqu'un d'autre prépare des questions que l'on pourrait présenter à la communauté. Il y a une partie du texte de l'évaluation qui pourrait nous aider, mais qui n'est pas rédigée de manière spécifique pour poser une question. Cela nous aiderait de savoir quelles sont les questions que nous pourrions poser à la communauté, car cela nous permettrait de cibler, de mieux cibler notre discussion. Et je peux vous donner un exemple de pourquoi cela serait utile. Milton et moi-même avons eu des discussions sur Adobe Connect sur la question de la juridiction du protocole d'accord. Milton me posait une question. Moi, je répondais avec le texte approuvé de la proposition en disant qu'un accord ne spécifiait pas la juridiction. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est qu'il faut poser ce type de questions à la communauté. Cela est très important, car dans la communauté de l'IETF, la question de la juridiction a été débattue en profondeur. Dans le RFP, nous n'avons pas, dans notre appel à proposition, nous n'avons pas spécifié que les mécanismes de responsabilité devraient répondre à une certaine juridiction. Ou devrait relever d'une certaine juridiction. Nous considérons que la juridiction pourrait être une région ou la Chine ou les États-Unis. On n'a pas une juridiction spécifique. Il est donc important de pouvoir poser ces questions à la communauté, car il s'agit d'une question dont on a débattu en profondeur. Cela nous permettrait de mieux comprendre la question. En ce qui concerne la juridiction en particulier, je ne pense pas que l'on reçoive une réponse différente de celle que l'on a déjà reçue. C'est pour cela qu'il serait utile de réfléchir à des questions que l'on pourrait poser. Manal prend la parole. Merci, Patrick. En réalité, je ne vais pas poser une question spécifique sur la proposition des paramètres de protocole. Par contre, j'aimerais plutôt parler au niveau général pour savoir au sein de l'ICG comment pensons-nous que devrait être le produit final. Nous aurions-nous trois propositions séparées ou aurions-nous une proposition unique ? parce que cela va affecter mon évaluation personnelle de ce que l'on propose. Je veux vous donner un exemple en ce qui concerne la juridiction. Par exemple, si une proposition est applicable à une juridiction spécifique alors que les deux autres ne sont pas applicables à cette juridiction, comment va-t-on refléter cela? Va-t-on appliquer une juridiction à toutes les propositions? Va-t-on avoir trois propositions séparées ou différentes? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Patrick Folsom prend la parole. Oui, je comprends bien votre question. Et permettez-moi de poser la question aux autres membres de l'ICG. Moi, en tant que coprésident du groupe, d'après ce que j'ai écouté, à chaque fois qu'il y aura une réponse différente ou qui pose conflit entre les différentes communautés, il nous faudra encourager les communautés à communiquer entre elles, résoudre le problème et puis s'adresser à nouveau vers nous. Ce serait l'un des cas où cela devrait être fait. Il faudrait demander aux communautés d'en discuter entre elles et de revenir vers nous. Manal Ismail prend la parole. Pour être bref, même si on n'a pas encore reçu la proposition de la communauté des noms, je crois tout de même qu'ils sont en train de travailler sur des détails très spécifiques. Il est évident donc que cet écart entre le niveau de détail de la du travail de la communauté des noms et du reste des communautés. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à ce stade au sein de l'ICG, par exemple? Pourrions-nous les encourager à parler entre elles? Yari Arco prend la parole. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé avant. Le problème ici, c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a des écarts. Il doit y avoir une synchronisation. S'il n'y a pas un accord par rapport à qui doit prendre en charge certaines activités, ça, c'est un problème. Si les communautés gèrent les choses différemment, cela peut ne pas poser problème. Si l'on arrive à une situation qui soit satisfaisante. Nous ne sommes pas en train de essayer d'aligner les processus des différentes organisations. Manal Ismail prend la parole. Je voulais tout simplement essayer d'obtenir des précisions, des clarifications par rapport à ces questions pour savoir comment on doit travailler. Si la communauté des noms établit une certaine juridiction, est-ce que cela veut dire qu'il faudra travailler différemment avec eux ou continuera-t-on de travailler normalement? On travaillerait de façon différente. Si cela concerne les niveaux pratiques, il doit y avoir une explication dans une section différente. Il doit y avoir donc un point d'interaction par rapport à leur position et nous allons devoir l'inclure dans notre proposition. Mais il ne faut pas que tous les points soient alignés. Patrick Folsom prend la parole. Daniel, Joseph, Rasmundi, Milton ont demandé la parole. Daniel, vous avez la parole. Daniel Carambert, je voudrais expliquer un petit peu les raisons qui m'ont poussé à vous demander de remercier la communauté des protocoles, de paramètres de protocole pour le travail qu'ils ont fait et de ne pas poser d'autres questions. Les raisons qui m'ont poussé à faire cela, ce sont les mêmes qui ont poussé Alissa à dire ce qu'elle a dit il y a quelques minutes. En tant qu'ICG, nous avons une communication formelle avec la communauté des paramètres de protocole. Cela n'empêche pas que plus tard, nous ayons d'autres questions. Ce qui est important en ce moment, c'est de se focaliser sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme information supplémentaire pour pouvoir mener à bien notre travail. Je soutiens la suggestion d'Alissa de nous focaliser sur cela. Si les gens qui vont parler après moi pouvaient aborder cette question spécifique, ce serait très bien. Joseph Aladev. Merci. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu, à un moment donné, la question de savoir que si les paramètres de protocole ne figuraient pas dans le contrat, il ne serait pas question d'aborder leurs propositions ici. Il y a une certaine quantité d'interdépendance entre les communautés opérationnelles. Et je pense que la NTIA n'est pas ici un problème du point de vue des paramètres de protocole. L'interaction avec les autres protocoles et le fait de savoir comment cela fonctionne, c'est cela qu'on devrait incorporer dans la proposition finale. Je voulais tout juste soulever cette question. Nous n'avons pas une question spécifique à poser, mais cette interaction entre les trois communautés opérationnelles peut être importante lorsque nous allons consolider notre proposition définitive. Wolf Ulrich prend la parole. Wolf Ulrich, merci. J'ai quelques commentaires à faire en ce qui concerne l'intervention de Manal. Je pense que sa question est très intéressante. Nous devons en parler. Je pensais également au fait de savoir pourquoi nous parlons des paramètres de protocole alors qu'il semblerait que cela pourrait être indépendant par rapport aux autres communautés. Et quelles sont donc les relations avec les fonctions YANA? À partir des échanges qui ont eu lieu sur la liste de diffusion par rapport à cette proposition, j'ai pu constater que la communauté de l'IETF est satisfaite avec la situation actuelle. Voilà ce que l'on comprend à partir des échanges qui ont eu lieu. Alors, pourquoi faut-il changer? Ou quelles seraient les conditions qui les amèneraient à introduire des modifications? Ils pourraient éventuellement introduire des modifications, mais il faudrait peut-être considérer la possibilité de séparer ce qui relève de leur situation, le séparer de la situation actuelle. Donc, ce que je voudrais, c'est poser la question suivante. Quel serait donc le déclencheur pour vous pour dire, d'accord, si nous faisons un pas sur le côté de cette solution consolidée pour la transition? Voilà ma première question. J'ai une autre question qui rejoint un petit peu l'inquiétude qui a été soulevée concernant la juridiction. Si nous avançons avec le protocole d'accord, qu'est-ce que cela représente du point de vue de la juridiction? Je voudrais également dire qu'il faudrait remercier l'IETF, mais nous devrions également faire passer un message de motivation, non seulement les remercier de nous avoir fait parvenir leurs propositions, mais essayer également d'envoyer quelque chose, leur dire quelque chose par rapport au fait que nous prenons au sérieux notre travail pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qu'ils devraient attendre dans l'avenir.
Yerko prend la parole. Oui, je voulais répondre à cette question du déclencheur. Et que notre position soit claire ici. L'IETF, comme vous savez, participe à un système de modification qui existe dans le cadre de ce processus de transition. Et on a une interdépendance avec les autres parties. Donc on veut assurer que tout soit bien clarifié, que l'on puisse identifier quelles sont les lacunes s'il y en avait. Et voilà pourquoi nous sommes là. Je pense que la communauté de l'IETF ne veut pas faire de grandes modifications. Les modifications, en fait, sont des détails. Si vous voyez le cadre général, on ne devrait pas essayer de leur demander de faire de grosses modifications. Oui, Cavus. Cavus Arasté prend la parole. Oui, Yaris, si vous dites que la NTIA n'a pas un rôle pratique. Je ne suis pas sûre de ce que vous dites, mais de toute façon, puisque l'IETF travaille sur les paramètres de protocole et qu'il travaille en coordination avec les autres communautés, je ne peux pas soutenir cette idée de traiter chaque proposition séparément. Il faut que l'on ait une idée générale au moment d'envoyer le rapport de l'ICG ou lorsqu'on atteindra le résultat final que l'on va transmettre à la NTIA. Ce ne serait pas approprié de dire qu'il n'y a pas de problème à traiter les propositions séparément. D'autre part, il y a des questions et des implications juridiques et de juridiction. Notre protocole d'accord, est un protocole d'accord, justement. Ça n'a pas un statut juridique. C'est comme les déclarations. Il y a une déclaration qui est universelle. Ce n'est pas des déclarations qui ont une valeur juridique. Il faut que l'on considère la valeur juridique, mais elle n'est pas implicite dans la déclaration. En outre, il y a aussi un degré de responsabilité. Même si ce n'est pas détecté ou modifié à partir de l'IETF, il y a un degré de responsabilité qui doit être respecté et qui doit être mis dans le contexte de la responsabilité du système total, complet. Et cette question n'a pas été abordée pour l'instant. La révision et la modification et le panel de recours qui applique à ces trois communautés opérationnelles pourrait également être une question qui devrait être considérée. Donc je pense qu'on ne devrait pas discuter des propositions indépendamment et de les envoyer à la NTIA disant « bon, voilà le domaine où on n'a pas de problème ». On devrait avoir des problèmes ou pas, des commentaires à faire ou pas, mais il faudrait que l'on considère la totalité des questions. Merci. Yari prend la parole. Oui, je rebondirai sur une partie de ce que vous avez dit, en tout cas. Pour ce qui est de la valeur juridique des protocoles d'accord, je dirais qu'il est important de ne pas entrer dans des aspects juridiques en tant que des amateurs, puisqu'on n'est pas des avocats ici. Je pense qu'il faut que l'on considère ces aspects, mais que ce n'est pas nécessairement si léger comme implication, comme vous croyez. Normalement, dans les sociétés ou dans les organisations, on consulte des avocats pour voir quelle est leur opinion, mais on ne leur permet pas de prendre les décisions. Ils peuvent évaluer les risques et les situations, et dans ce cas, c'est pareil. C'est une situation très difficile, et ce n'est pas facile d'avoir des garanties de quoi que ce soit ici. Que ce soit une juridiction en Finlande ou ailleurs. Et indépendamment du format juridique, je dirais qu'on a une situation où on a différents partenaires qui s'engagent au processus et qui ont décidé de travailler ensemble. Et ces partenaires ont toujours la possibilité de décider de ne plus travailler avec nous. On ne peut pas forcer les personnes à travailler au-delà de ce qu'ils sont prêts à faire. Déjà ça, d'une part. D'autre part, nous, à l'IETF, sentons que notre valeur dans le contexte du système ne vient pas des contrats ou des dispositions qui obligent les autres à appliquer quoi que ce soit. Au contraire, nous sentons que notre pouvoir vient de notre influence sur les autres pour qu'ils reconnaissent que l'IETF a une entité, qu'on est un organisme qui a des connaissances par rapport au numéro de port, par exemple, et qui un organisme qui prend des décisions sur ces questions. Donc je pense que la protection ultime que nous avons dans l'avenir, c'est ça. On doit faire confiance au reste aussi, mais je sens que déjà, c'est une protection qui est meilleure que la protection des contrats. Donc voilà pourquoi le groupe de travail a considéré ce qu'il a considéré ou ce qui a été inclus dans la proposition. Et puis pour ce qui est de la responsabilité, je pense que c'est tout à fait clair. On a des procédures que nous suivons et c'est un système qui fonctionne. On a un code qui fonctionne et voilà pourquoi on ne va pas le modifier. C'est déjà plus ce que je pouvais dire. Russ Mundy prend la parole. Nous avons un nombre de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et pour lesquelles on n'aura pas de réponse jusqu'à ce que les trois communautés opérationnelles aient présenté leurs propositions. À mon avis, la question des juridictions, qui est une question qui a déjà été soulevée un nombre de fois aujourd'hui, ne constitue pas une raison pour laquelle la question de la juridiction ne devrait pas être commune aux trois communautés. On nous a demandé de fournir à la NTIA une proposition consolidée s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de lacune et si les trois juridictions dans les trois propositions sont séparées, indépendantes, mais qu'elles sont cohérentes avec chaque communauté, et alors on devra l'accepter. Là, je suis d'accord avec Russ Mundy sur ce point-là. Alors, à moins qu'il y ait des aspects qui, à partir des deux propositions que nous avons, nous semblent ne pas être cohérents, je soutiendrai les déclarations de Daniel tout à l'heure. Mon avis est assez proche du sien. Et je dirais que c'est parce que j'ai travaillé avec les deux communautés. Alors, je me sens à l'aise avec l'avis de Daniel. De toute façon, je voulais demander aux personnes d'aller lire le document S-Act 69, qui a un nombre de questions qui sont intéressantes, qui pourraient être bien sûr des questions sensibles auxquelles les gens devraient réfléchir au moment de faire leur révision et qui pourraient être utiles pour simuler ou au moins pour générer une discussion plus centrée. Milton, dit Patrick. Milton Müller prend la parole. Oui, je rebondis immédiatement sur ce qui a été dit. Je cherche les documents SAC 68, 69 depuis un moment et je n'arrive pas à les trouver. Donc, si vous pourriez m'envoyer un lien pour accéder à ces rapports-là, je vous en serai reconnaissant. Russ prend la parole. Oui, bien sûr, je vous l'enverrai. Milton prend la parole. Merci. Je pense que c'est ça le niveau de détail qu'il nous faut. Il faudrait que l'on précise pour ceux qui mettent en question l'évaluation de la proposition. Il y a une certaine tendance, comme Daniel le disait, à penser qu'il s'agit d'un défi ou une remise en question de l'autonomie de l'ICG et de l'IETF. Et ce n'est pas cela qu'il faudrait que l'on discute. Ce qui nous inquiète ici est la stabilité, la solidité du changement total. C'est une situation unique qu'on a devant nous. Le gouvernement des États-Unis contrôle ses fonctions de coordination depuis le début. On essaie ici de changer cela. C'est une question très polémique aux États-Unis. Ici, on parle de la communauté multipartite mondiale. On comprend tous ce que ça veut dire. On est tous contents avec cette communauté multipartite mondiale. Mais peut-être que pour le Sénat des États-Unis, on semble être des religieux fanatiques. Alors, on vous pose des questions sur la façon dont on établit une juridiction opérationnelle, comment on résout des problèmes, comment on sait que le gouvernement des États-Unis ne contrôle plus les fonctions. Eh bien, il faut que l'on ait une proposition finale sur laquelle nous sommes sûrs. On ne va pas dire on adore l'IETF, ils ont des processus qui nous semblent très convenables. Mais au contraire, il faut que l'on sache que la proposition finale qui va résulter de notre travail sera correcte en termes institutionnels, qu'elle pourrait fonctionner, qu'elle constituera un cadre institutionnel qui pourra fonctionner pour les différentes communautés, pour gouverner les fonctions IANA. Et si on n'arrive pas à pouvoir coordonner et consolider les propositions en une seule proposition finale cohérente, on devra trouver une manière d'agir qu'on le pourra suivre pour pouvoir déclarer qu'il s'agit d'une question opérationnelle. Patrick prend la parole. Merci. Y a-t-il des remarques à ce point-là? Oui, Daniel, allez-y. Daniel Karemberg prend la parole. Puisqu'on a dit mon nom, je n'ai rien dit de ce que Milton vient de m'attribuer. Tout ce que j'ai dit était qu'il fallait qu'on se concentre sur les questions que l'ICG veut poser à la communauté des paramètres de protocole. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit d'autonomie, ni d'amour, ni de légitimité ou de quoi que ce soit. Hein. Tout ce que j'ai dit est que, à titre personnel, je n'ai pas de questions. Il me semble que la proposition est correcte. Je sens qu'un processus a été suivi et j'ai répondu spécifiquement à Jean-Jacques. Pour ceux qui connaissent l'IETF, c'est parfaitement clair et c'est très raisonnable. C'est ça ce que je pense. Je n'ai pas entendu de personnes qui proposent des questions spécifiques à l'IETF. Est-ce qu'on peut passer aux questions spécifiques? Patrick prend la parole. Il me semble qu'à ce point-là, on devrait passer à cette partie de la discussion, justement. On n'a pas de personnes ici qui veulent prendre la parole. On a déjà fait un tour de la table. Ah non, d'accord. Narelle veut prendre la parole. Narelle Clark prend la parole. Pour répondre aux commentaires de Daniel, j'ai entendu une question spécifique qui devrait être posée à l'IETF et la question est quelle est la juridiction dans laquelle vous croyez que le protocole d'accord opère? Je trouve que cette question est répondue dans le contexte de la présentation de l'IETF à l'ICG. De toute façon, c'est une réponse indirecte puisqu'elle nous renvoie à un nombre d'autres documents. Mais la proposition nous a été présentée comme version préliminaire il y a déjà un mois et demi. Voilà, c'est à vous de décider. Patrick prend la parole, Yari et puis Cavus. Yari Arco prend la parole. Je pense qu'il est important que l'on essaie de séparer les désaccords potentiels qu'il peut y avoir par rapport à la réponse aux questions ou par rapport aux questions spécifiques ou aux demandes d'informations. Il me semble normal que l'on demande davantage d'informations parce que, comme j'ai déjà essayé de préciser, il y a différentes étapes dans cette salle. Et je vous jure que nous travaillons sur un nombre d'aspects dont lesquels et parmi lesquels on a l'explication du processus qui a été suivi pour parvenir à la proposition qui a été présentée, pourquoi les décisions qui ont été prises. Et je pense que ce sera utile pour vous d'avoir ces explications. J'ai déjà expliqué le processus de l'IAOC et j'espère que vous l'aurez trouvé utile. Comme Narelle, nous avons essayé d'expliquer la question de la juridiction. Peut-être que vous n'aimez pas notre réponse, mais ce n'est pas pareil à ne pas avoir de réponse. J'attends bien sûr avant d'avancer pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais peut-être qu'on devrait être plus clair dans l'avenir pour voir quels seront les contrats que nous aurons. Nous allons vous fournir davantage d'informations une fois qu'on aura fini la réunion. Chacun est un expert sur un aspect différent. Bien sûr, on serait très content de vous fournir d'autres informations, mais je ne veux pas passer à un processus où l'ICG est en désaccord avec ce que la communauté a décidé. Ce serait difficile de faire face à une situation pareille. Cavus? Cavus Araste prend la parole. Je n'ai peut-être pas été clair. J'ai posé trois questions spécifiques. Mais le problème est que l'IETF croit que la communauté est mondiale multipartite et que ce n'est pas simplement la communauté de l'IETF. Il faut que l'on sache comment la communauté mondiale multipartite pourrait se réunir si nécessaire. En ce moment, c'est une question de personnalité juridique, d'entité juridique. On devrait voir les aspects pratiques et opérationnels pour que cela prenne une forme claire de mode et de méthodologie. D'autre part, mon autre question portait sur la responsabilité, sur la révision et sur la solution. Donc, j'ai posé la question parce que l'IETF travaille avec les deux autres communautés et il faut qu'ils agissent de manière intégrée avec les autres deux communautés. L'IETF ne travaille pas de façon complètement indépendante. Il travaille tenant compte des nécessités des deux autres communautés. Ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de séparation entre les trois communautés. Donc voilà les trois questions auxquelles il faut qu'on me réponde. Patrick Falstrom prend la parole. Alyssa? Alyssa Cooper prend la parole. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition de poser des questions spécifiques. En dépit de la dernière déclaration de Cavus, je n'ai pas très bien compris quelles sont les questions qui devraient être transmises à l'IETF. Peut-être qu'on devrait reformuler les questions, mais j'ajouterai encore, pour rebondir sur la remarque de Narelle, qu'il faut que l'on pose des questions spécifiques. Il est important qu'on ne pose pas encore les mêmes questions qu'on a posées dans notre RFP. Par exemple, pour reprendre la question de la juridiction, si on veut avoir des réponses différentes à ce qu'on a déjà reçu, il faut que les questions que l'on pose soient différentes. Si nous posons encore les mêmes questions, bien sûr, ils vont répondre pareil. Je voulais également répondre à d'autres commentaires qui ont été faits. Milton, par exemple, parlait de la solidité de la proposition. La force de la proposition, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout ce qui a été dit, mais je ne pense pas que l'on ait établi un niveau et l'ICG devrait peut-être agir comme il veut. On ne peut pas répondre aux envies de tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des critères qu'il faut que l'on suive. Les critères qui ont été établis par la NTIA, et c'est ça le but, l'objectif, c'est de fournir une proposition qui réponde à ces critères. Il faut suivre ce processus pour voir s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été articulées ou s'il y a d'autres doutes qui pourraient être présentes dans les autres communautés. Donc il y a des critères et il faut que l'on sache quels sont ces critères pour pouvoir les suivre. Et puis, je reviens sur ce que Yari a dit aussi. Pour ceux qui connaissent la communauté de l'IETF, on essaie d'exprimer ce qu'il a dit, mais on a passé beaucoup de temps à discuter du processus de l'IETF lui-même, à discuter de la racine de l'autorité des paramètres de protocole. Et je pense que c'est parce qu'on a une difficulté à comprendre que si on n'a pas un contrat bien appliqué avec une juridiction spécifique aux États-Unis ou avec une juridiction comprise par tous, avec les signatures de 15 avocats et sur pourquoi l'IETF et sa communauté ne participent pas au processus, il est possible que dans le contexte des paramètres de protocole de l'Internet, l'architecture et le génie de l'architecture ne seront pas bien compris. Mais il est important que cette perspective du génie d'Internet soit réalisée pour que l'on puisse appliquer cette autorité des paramètres de protocole. Voilà pourquoi on décide comment on le fait. Voilà d'où leur vient cette autorité. Ça ne correspond pas à un contrat ou à un protocole d'accord. Et voilà pourquoi on a une certaine difficulté à comprendre pourquoi l'IETF agit comme il le fait. Voilà d'où vient l'autorité de l'IETF. Le reste des projections sont très bonnes. Mais l'autorité de l'IETF vient de la décision des personnes d'utiliser ces paramètres de protocole. Si les gens décident d'utiliser d'autres paramètres de protocole qui ne sont pas assurés par NIANA, l'IETF n'aura plus l'autorité. Voilà pourquoi l'IETF a l'autorité qu'il a.
Thank you very much.
Patrick Folsom prend la parole. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des commentaires de Milton sur la salle de chat par rapport à la suggestion du fait qu'on pourrait formuler les questions sur la liste de diffusion. Il ne faut pas forcément les formuler ici. Ce qui est important, c'est que l'ICG travaille de façon efficace et que l'on ne traîne pas avec le travail d'évaluation que nous devons faire par rapport aux propositions que nous ont fait parvenir les communautés de protocoles, paramètres de protocoles et de numéros. Parce qu'il est très important, bien sûr, que l'on pose les questions, les bonnes questions. Puisque je n'ai personne d'autre sur la liste. Pardon, Michael. Michael Lieben prend la parole. Je ne sais pas si c'est une question que j'ai, mais je voudrais donc avoir certaines certitudes. Même si nous savons qu'il n'y a pas de connexion entre l'IETF et l'NTIA, forcément, dans votre contribution, vous dites que vous, vous faites la connexion au niveau du contrat. Et quelle est donc la transition qui devrait se mettre en place si l'on change l'ICANN par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si je suis, si c'est correct ce que je pense. Je ne sais pas si cette formule, si on peut dire que l'ICANN reconnaît qu'elle va mettre en place les obligations par rapport au contrat des fonctions Indiana pour pouvoir mettre en place une transition correcte. Ma question par rapport à cette partie du texte est de savoir, vous avez dit que vous ne voulez pas changer et que cette obligation ne fait pas partie du protocole d'accord. Il s'agit donc de quelque chose de très léger. Et quand vous dites que c'est la préférence de la communauté de l'IETF, je voudrais savoir si vous êtes convaincu qu'une déclaration aussi légère, entre guillemets, est suffisante pour assurer la stabilité et la continuité. Yari Arco, Russ Hudley, pardon, prend la parole. Cette formule est en cours de révision par les avocats et je pourrais revenir vers vous avec une réponse dans quelques semaines. Patrick Folsom, merci beaucoup. Je vais suggérer, puisqu'il n'y a personne d'autre sur la liste, je vous encourage donc à réfléchir à des questions que l'on pourrait poser, à les poser donc sur la liste diffusion. Nous allons revenir sur cette question demain et voir où nous en sommes par rapport aux questions. Nous pourrons donc faire la pause déjeuner avant, puisque le repas est déjà arrivé. Donc, nous allons faire notre pause à 12h30 au lieu de 13h. Et nous reprenons donc à 13h30.